poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Aujourd'hui, après de brèves informations locales, nous reviendrons sur l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France qui s'est tenue au Lazaret à Sète fin janvier dernier. Nous parlerons ensuite de la sécurité en Europe avec la Conférence des Églises européennes et son initiative intitulée « Des chemins vers la paix ». Puis nous nous tournerons vers la communion des Églises protestantes d'Europe avec une prière pour la paix. Et nous terminerons avec un écho d'une visite de responsables palestiniens au Conseil œcuménique des Églises à Genève. Information locale. Je vous rappelle qu'ici à Nîmes, la maison du protestantisme est située au centre-ville de Nîmes, 3 rue Claude Brousson. Téléphone 04 66 67 97 40 et adresse mail mdp.nimes@free.fr. La maison vous accueille pendant les vacances scolaires du mardi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 16h et le lundi de 14h à 16h. Le prochain repas du jeudi, ouvert à toutes et tous, moyennant une petite participation financière, aura lieu le jeudi 6 mars à 12h15. Merci de vous signaler si vous comptez y participer, mais si vous n'êtes pas inscrit, venez quand même. Fédération protestante de France. Du 24 au 26 janvier dernier, la Fédération protestante de France a organisé son Assemblée générale, puis la rencontre des acteurs du protestantisme au domaine du Lazaret à Sète. Voici quelques extraits du discours que le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, a prononcé à cette occasion. Face à l'impermanence, la confiance. Nous vivons une époque marquée par une impermanence accélérée. Tout semble changer en permanence. Les institutions, les mentalités, les identités. Le protestantisme n'échappe pas à cette réalité. Il change lui aussi. Et c'est pourquoi il nous faut sans cesse reprendre le temps de l'analyser, de le penser. Pour ce faire, la Fédération protestante de France a commandé une enquête IFOP, 14 ans après la précédente, pour mieux appréhender les évolutions en cours. Cette enquête d'envergure met en lumière des réalités multiples et parfois contrastées. Elle révèle des mutations qui doivent être entendues, analysées et interprétées. Vous aurez l'occasion de travailler sur ces évolutions, d'exprimer les sentiments qui vous animent à la lecture de ces chiffres, de partager vos craintes au regard de ces changements. Le temps du changement, peut-être plus que tout autre moment, est un temps propice à poser la question de la confiance. Nous, protestants, confessons volontiers le principe théologique du sola fide, la foi seule. Nous affirmons par là le salut par la grâce seule et par le seul moyen de la foi. Or, parce que nous posons la question de la confiance dans le cadre de la théologie du salut, nous la vivons d'abord et probablement principalement, cette confiance, à l'aune de la dimension existentielle et donc en termes de spiritualité personnelle. Or, les mutations que nous traversons et que vient mettre en exergue ce sondage nous confrontent à une impermanence collective, celle de notre famille ecclésiale, de notre sensibilité spirituelle et théologique. Comment peut se jouer la question de la confiance dans ce cadre collectif, entre réformés et luthériens, entre baptistes, entre pentecôtistes, libristes, méthodistes, adventistes, salutistes? Comment peut se jouer la question de la confiance au sein de la Fédération protestante de France, entre ceux qui se réjouissent ou se félicitent des évolutions, et ceux qui s'en inquiètent, voire en craignent les conséquences? La confiance, pour surgir, pour être expérimentée, pour être éprouvée, pour être vécue, et finalement pour en vivre, a besoin d'une parole qui se fait promesse. C'est ce que nous enseigne la théologie biblique, notamment le cycle d'Abraham. C'est parce que l'appel qui lui a été adressé était adjoint d'une promesse qu'en répondant à sa vocation, Abraham a pu éprouver la confiance et en vivre. Chemin faisant, y compris dans l'adversité, alors que la confiance se fait espérance, Abraham est devenu pour l'humanité une figure de foi. La figure d'Abraham nous enseigne précisément que la confiance étouffe dans les temples de la certitude, qu'elle ne trouve pas sa place dans le déterminisme que semble écrire un présent inéluctable, mais que précisément la confiance déploie ses ailes dans les chemins d'incertitude. Nous aurons l'occasion cet après-midi de travailler cette thématique de la confiance au bénéfice d'un éclairage croisé entre une théologienne, un philosophe et une responsable politique. Construire une parole protestante pour 2027. Nous vivons dans une société fortement polarisée. Les sujets qui nous divisent sont nombreux. On le mesure tous les jours en suivant le débat politique ou les débats qui traversent notre société. Cette polarisation défie l'unité de notre société. Elle ruine ce lien que Jean-Jacques Rousseau appelait le contrat social, qui permet de se saisir ensemble du bien commun et de l'intérêt général. Cette polarisation ébranle notre capacité à relever de grands défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons vécu des grands moments d'unité lors des Jeux Olympiques de Paris et lors de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Mais ces moments exceptionnels ont été des parenthèses. Le réflexe centrifuge demeure puissant et notre pays continue de faire montre d'une redoutable capacité à s'archipéliser. Je souhaite que la Fédération protestante de France, au nom de ce protestantisme qui sait se tenir ensemble, qui moult fois a fait montre d'une remarquable capacité de dialogue respectueux, engage un travail dans les 18 mois à venir pour analyser l'état de notre société afin de construire une parole protestante à adresser aux Français en vue des élections présidentielles de 2027. Les commissions, avec leur expertise juridique, éthique, sociétale, de dialogue avec le judaïsme, avec les musulmans, seront un précieux concours à cette démarche qu'il nous appartiendra tout d'abord de formaliser. Conférence des Églises européennes. Je rappelle que la Conférence des Églises européennes est un organisme qui rassemble 116 membres parmi les églises orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieilles catholiques de tous les pays d'Europe. La Conférence des Églises européennes a des bureaux à Bruxelles et à Strasbourg. La Conférence des Églises européennes a contribué au symposium sur la sécurité en Europe, dimension religieuse de la guerre et responsabilité morale pour la paix. Tel était le titre de ce symposium, qui s'est tenu du 12 au 13 février à Munich. L'événement a été organisé dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité en coopération avec l'Université Ludwig-Maximilian de Munich, l'Université catholique ukrainienne de Lviv et l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Madame Katerina Pécridou, responsable du programme de théologie et d'études de la Conférence des Églises européennes, a partagé ses réflexions sur le thème « Potentiel de pacification des communautés religieuses et des organisations œcuméniques ». Elle a présenté le travail de la Conférence des Églises européennes dans la consolidation de la paix, en particulier son programme phare intitulé « des chemins vers la paix. Dans un monde de plus en plus complexe et violent, les églises et les chrétiens individuels, ainsi que d'autres communautés de confession vivante et des personnes sans foi, en sont venus à reconnaître que travailler pour la paix constitue une expression première de notre responsabilité commune pour la vie dans le monde. Cette responsabilité est fondée sur la bonté essentielle de tous les êtres humains et de toute la création de Dieu, a-t-elle déclaré. Madame Pécridoux a souligné la nécessité d'un engagement actif dans les efforts de paix. Elle a déclaré « La paix est inextricablement liée à la notion de justice et de liberté que Dieu a accordée à tous les êtres humains par le Christ et à l'œuvre du Saint-Esprit en tant que don et vocation. La paix et la création de la paix en tant que don et appel relient la foi au témoignage éthique et à la transformation sociale. » La nature dynamique de la paix ne permet pas la passivité et l'acceptation de l'injustice. Les contributions de la Conférence des Églises européennes ont souligné le rôle essentiel que jouent les communautés religieuses dans la promotion de la paix, de la justice et de la réconciliation en Europe. Grâce à des initiatives telles que des chemins vers la paix, la Conférence des Églises européennes reste déterminée à promouvoir les efforts de consolidation de la paix sur tout le continent et au-delà, en travaillant en collaboration avec les Églises, les partenaires œcuméniques et les institutions européennes. Et maintenant, quelques mots sur cette initiative des chemins vers la paix. Cette initiative se concentre sur l'Ukraine suite à l'invasion du pays par la Russie en 2022, en promouvant la justice, la réconciliation et la paix. Il s'agit d'une réponse coordonnée de la communauté des églises européennes. L'initiative renforce la synergie entre les églises et les partenaires, en mettant en œuvre une variété d'événements et de projets. Des chemins vers la paix est une initiative qui renforce la vision œcuménique d'une paix juste, en facilitant les échanges entre les églises européennes et en promouvant les voix des églises ukrainiennes dans le débat œcuménique. Des chemins vers la paix développent la coopération entre les dirigeants d'église, les intellectuels et les universitaires en vue de la paix en Ukraine. Elle engage un dialogue avec les institutions européennes, aborde les préoccupations politiques cruciales et plaide pour la protection des sites religieux détruits en Ukraine. En Europe, environ 100 membres, la Conférence des Églises européennes a été fondée en 1959 en tant qu'organisation de consolidation de la paix après la mort et la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Nous continuons à honorer ses racines les plus anciennes par un engagement continu en faveur de la consolidation de la paix et de la réconciliation. Église protestante unie de France. Un appel à la prière. Le 24 février marque le troisième anniversaire de l'attaque de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Prière pour l'Ukraine. Depuis, des centaines de milliers de personnes sont mortes dans cette guerre et une paix juste n'est toujours pas à portée de main. La communion d'églises protestantes en Europe, qui compte environ 100 membres, a demandé à son église membre, l'église évangélique luthérienne allemande en Ukraine, de composer une prière pour marquer le troisième anniversaire de la guerre. Nous espérons que cette prière nous aidera à nous associer aux lamentations et aux supplications de nos frères et sœurs, que ce soit avec leurs mots ou inspirés par leurs pensées avec nos propres mots. Voici cette prière. Viens, Seigneur Jésus, notre Père qui es aux cieux, nos yeux sont tournés vers toi et nous élevons nos cœurs devant toi. Ô Dieu, cela fait plus de 1000 jours que nous te prions quotidiennement, que nous t'implorons, que nous mettons notre espoir en toi. Depuis plus de 3 horribles années, nous recevons d'horribles nouvelles de la mort de nos compatriotes. Nous entendons le bruit des explosions et le gémissement des sirènes. Seigneur, chaque jour le nombre d'orphelins et de veuves augmente. Chaque jour, il y a plus de personnes qui éprouvent la douleur de la perte d'un être cher. Notre Dieu, nous ne voyons pas la fin de cette calamité, toi seul nous tiens. Depuis plus de 1000 jours, Seigneur, nous sommes restés debout et nous avons cru. Nous te remercions car ton fantôme nous nourrit. Nous croyons en ta justice. Nous espérons en ta miséricorde. Nous faisons l'expérience de ton amour au milieu de la ruine et de la mort. Mais Dieu, notre force est à bout. Nous te faisons part de nos souffrances, Père, bien que tu les connaisses toutes avant même que nous te les disions. Les fils et filles de notre nation nous quittent, ils meurent sur les champs de bataille et sous le feu de nos villes et de nos villages. Nous restons, Seigneur, reste avec nous. Nous te remercions pour tous ceux qui nous soutiennent. Nous te remercions pour nos frères et sœurs en Christ et pour la bonne volonté de ceux d'autres pays. Bénis-les. Insuffle-nous la foi pour la victoire de l'amour et de la vérité. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Conseil œcuménique des Églises. Une délégation palestinienne en visite au Conseil œcuménique des Églises pour parler de foi, d'espérance et d'action. Une délégation palestinienne a rendu visite au Conseil œcuménique des Églises le 18 février pour participer à des dialogues approfondis sur la justice, la paix et la dignité de tous les êtres humains. Le patriarche et la délégation ont rencontré le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Jerry Pillay, qui a réitéré les appels incessants du Conseil œcuménique des Églises à une paix juste et à des actions immédiates pour remédier à la crise humanitaire à Gaza. Avec le Conseil œcuménique des Églises, la délégation a également discuté des raisons pour lesquelles la communauté internationale devait prendre des mesures décisives pour garantir un accès immédiat à l'aide humanitaire, notamment à des denrées alimentaires, à l'eau, à des fournitures médicales et à des abris. Pour le patriarche Théophile, la présence chrétienne est confrontée à de nombreuses difficultés aujourd'hui. Certaines de ces difficultés sont dues aux tentatives systématiques de certains groupes radicaux israéliens de débarrasser Jérusalem de sa communauté chrétienne historique. D'autres sont les résultats d'initiatives politiques, d'autres encore de la guerre à Gaza, a-t-il ajouté. Les patriarches et les chefs d'église ne cessent de réitérer leurs appels à un cessez-le-feu effectif et durable, à un soutien économique pour reconstruire les hôpitaux, les écoles et les organisations caritatives gérées par les églises, et à l'autorisation des chefs d'église de se rendre à Gaza. Les patriarches et les chefs d'église ne cessent de réitérer leurs appels à un cessez-le-feu effectif et durable, à un soutien économique pour reconstruire les hôpitaux, les écoles et les organisations caritatives gérées par les églises, et à l'autorisation des chefs d'église de se rendre à Gaza. Et il a conclu « Jérusalem et la Terre Sainte forment une région où les communautés juives, chrétiennes et musulmanes pourraient et devraient pouvoir vivre paisiblement les unes à côté des autres. Il y a de la place pour toutes les personnes qui considèrent la Terre Sainte comme leur foyer. Telle est la beauté de la ville sainte. Cette ville multiethnique, multiculturelle et multireligieuse est la capitale religieuse de la planète, le foyer spirituel de la famille monothéiste. » Monsieur Ramzi Kouri, président du Haut Comité présidentiel aux affaires ecclésiales, a déclaré « L'unité des Églises est plus que jamais essentielle aujourd'hui. Nous devons impérativement adopter une position ferme contre le déplacement délibéré du peuple. » Aujourd'hui, il faut que les églises fassent de toute urgence entendre leur voix pour plaider en faveur d'un retour au droit international en tant que moyen de mettre fin aux guerres et de faire régner la justice. Nous refusons que notre peuple soit traité avec arrogance et par la force. Accepter cette triste réalité serait dangereux non seulement pour la population palestinienne, mais aussi pour toute l'humanité. Le dialogue avec la délégation palestinienne a également conduit à réaffirmer la volonté du Conseil œcuménique des Églises de défendre le caractère sacré de Jérusalem, de Bethléem et de tous les sites religieux, en veillant à ce qu'ils restent des lieux de culte et de refuge et ne soient pas considérés comme des cibles de guerre. Le pasteur Pillay a réaffirmé que le Conseil œcuménique des Églises rejetait catégoriquement tout plan prévoyant le transfert sous la contrainte ou le déplacement permanent de la population palestinienne hors de son territoire. Il a souligné qu'il était impossible d'obtenir la paix sans s'attaquer aux causes profondes du conflit à savoir l'occupation illégale, la discrimination systématique et le refus de l'autodétermination palestinienne. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.